Chapitre 3. Je me suis arrêté un moment d'écrire. J'ai fermé les yeux pour évoquer tout ce passé que pour moi seul je transcris, comme si, en lui donnant une forme, je le revivais de nouveau. Que j'ai de peine à me représenter ma mère telle qu'elle était alors. Il faut que je fasse un effort, que je concentre ma volonté, et alors, sur un fond noir, épais, où naissent et s'effacent des phosphorescentes confuses, je vois se reconstruire peu à peu une figure étrangement douce, une physionomie enfantine avec de grands yeux clairs qui semblent, tant ils sont toujours rêveurs, vous regarder de plus loin qu'eux-mêmes, et des cheveux bruns, abondants, qui moussent sur son front. J'entrevois une taille mince, souple, pliante, une démarche onduleuse et singulièrement balancée, mais ce n'est que l'espace d'un éclair. De nouveau, tout se brouille et se confond. Les hommes se gravent mieux dans la mémoire, peut-être parce que leurs traits sont plus marqués et plus rudes, peut-être aussi parce qu'on pense moins à eux et qu'on n'use pas leur image à se la représenter trop souvent. Mon père était grand et lourd, avec le ventre un peu fort, l'air bourru, de bons yeux de chien qui démentaient cette apparence sévère et une barbe longue et clairsemée. Il était indolent et faible et criait fréquemment pour cacher son manque de volonté. Mais que peut-on cacher à une femme ou à un enfant? Sa sœur avait sur lui la plus fâcheuse influence, et cette influence, comme je l'ai déjà dit, s'exerçait à nos dépens. Ma mère n'avait plus de famille, si ce n'est des cousins éloignés qui habitaient une autre ville. Elle avait perdu sa mère peu après sa naissance, et son unique tante du côté paternel l'avait prise avec elle pour l'élever. Son père habitait alors avec sa sœur, mais il se toqua d'une actrice, partit à sa suite, et on ne le revit plus. Il mourut longtemps après, à Alexandrie, dans la misère. Ma mère parlait de lui avec sympathie. Ce n'était pas un méchant homme, mais il était léger, faible, insouciant, et il aimait follement le plaisir. Sitôt qu'il avait un peu d'argent, il courait acheter du champagne et des friandises. Il disait que le bon vin est plus nécessaire à l'homme que la viande. Il ne pouvait pas supporter l'ennui, ce qui fut l'origine de ses malheurs. Et je crois qu'en ceci ma mère lui ressemblait, et peut-être aussi en bien d'autres choses. Elle demeura donc seule avec mademoiselle Belléoudi, qui était une personne des plus curieuses, fort honnête, mais romanesque, et la cervelle farcie d'extravagances, d'histoires d'amour et de trésors cachés, lectrice assidue de feuilletons dramatiques, ayant, malgré une situation très médiocre, des goûts de luxe et de dépenses, et l'amour éperdu du théâtre, très raisonnable au fond, mais qui éleva sa nièce avec un bizarre mélange de bon sens et de folie. Elle était beaucoup plus âgée que son frère, et quand ma mère eut 20 ans, craignant de mourir avant son établissement, elle chercha à la marier. Comme toujours, des amis, des prêtres, des vieilles filles s'entremirent. Coquette et sentimentale, mademoiselle Belléoudi était aussi pieuse, mais comme elle faisait toute chose, c'est-à-dire avec beaucoup de passion, et ne voyant dans la religion qu'apparitions, grâces exceptionnelles et miracles. On présenta donc monsieur Messirel, dont un vieux chanoine avait connu le père. Ma mère ne fut pas, je crois, très troublée par lui, et elle m'a raconté qu'elle hésita longtemps. Mais il avait une jolie situation, il était très amoureux et il sut se montrer persuasif. Ce fut, je crois, la seule fois de sa vie qu'il réussit à persuader quelqu'un. Et il aurait mieux valu peut-être qu'il ne fût pas ce jour-là plus éloquent que de coutume. Ma grand-tante vieillissait, ma mère se décida donc, et peu après le mariage, mademoiselle Belléoudi s'en alla de cette terre, comme si elle n'attendait que cet événement pour disparaître. Elle partit tranquille, persuadée que sa nièce avait fait un mariage d'amour éperdu et qu'elle avait épousé un homme d'une colossale fortune. Elle savait que tout cela n'était pas vrai, mais elle ne le croyait pas. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait fait une mort de sainte, parce qu'elle apporta à mourir la même exaltation qu'elle avait mise à vivre. Y a-t-il dans toute religion autre chose qu'une forme du romanesque? C'est beaucoup que d'avoir à son lit funèbre la présence d'un dieu, et ma vieille tante y vit tout le paradis. Ma mère eut un grand chagrin de ce trépas. Les premiers temps de son mariage, elle allait l'après-midi, quand ma tante était à l'église, rêver dans son appartement. Il y avait là des bibelots auxquels elle tenait comme à des amis. Au salon, trônait un vieux Bouddha doré à l'air paterne et bon. Je crois que ma mère le préféra longtemps à son mari. Il ne lui parlait pas, c'est vrai, mais du moins n'avait-il pas toujours aux lèvres ces paroles maladroites ou blessantes qui froissent tant les jeunes femmes solitaires. Puis je naquis, et toute la vie de la maison se trouva modifiée. Je ne fus longtemps pour ma mère qu'un jouet de plus. Mes premiers souvenirs sont très brouillés, mais je nous revois souvent, elle et moi, courant après une balle ou alignant des soldats de plomb, à quatre pattes tous les deux sur le tapis. L'hiver, assis devant la cheminée où le feu consumait les bûches, j'écoutais maman me lire ou me narrer des contes de fées. Ce sont eux qui me donnèrent ma première vision de l'univers. Elle était pleine d'enchantement, de vieilles dames bienfaisantes ou dangereuses, de belles chevelures et de dragons. Je me représentais la jolie princesse persécutée sous les traits de ma mère. Quant à mon père, je ne trouvais rien dans cette littérature qui lui ressemblât. Il n'avait point de place, lui, entre les enchanteurs et les chimères. Il était absurdement réel. L'amour de la belle au bois dormant et du chaperon rouge, de la droite princesse et de l'oiseau bleu, préluda chez moi à celui de la mythologie. Il y a des gens qui, de très bonne heure, montrent de rares dispositions à la vie quotidienne. Je grandis ainsi, en âge et en déraison, comme tous les enfants. Je n'avais rien de remarquable et je ne témoignais d'aucune précocité. Nul ne répétait mes bons mots parce que je n'en disais aucun. J'étais paresseux, distrait, gourmand et ne montrais de goût un peu vif que pour m'amuser pendant des heures avec mes soldats de plomb ou mes japonais de terre cuite. J'assistais souvent à des scènes entre mes parents. Je redoutais la famille Trémla. Plus tard, j'eus grand-peur d'aller au collège. Maman tantôt s'occupait de moi avec excès, tantôt me négligeait tout à fait pour se passionner ailleurs. Au changement de saison, par exemple, il n'était plus question que de la couturière. Ou bien c'était une amie nouvelle ou un roman qu'elle lisait avec fièvre. Un certain temps, on ne parla plus chez nous que d'une madame de Tulle pour qui maman se prit d'une belle frénésie. C'était une jeune femme retrouvée par hasard et qui était une ancienne amie de couvent. Mais celle-là demeura la meilleure amie de maman jusqu'à la fin. Peut-être parce qu'elle se trouva plus mêlée à notre vie que nous ne l'aurions d'abord supposé. Peut-être parce qu'elles avaient l'une pour l'autre une vieille affection et non un caprice éphémère. À peu près vers la même époque, se place un épisode qui me frappa. J'ignore si ce fut avant ou après ce fameux dimanche où je fus privée de dessert et où j'allais seule avec papa au café, pendant que maman souffrait de la migraine pour ne pas sortir avec nous. J'avais passé mon après-midi à diriger, à travers le désert d'une table, la caravane de mon arche de Noé, dont je revois les bêtes de plomb comme si je les avais encore sous les yeux. Rien ne saurait dépeindre la grâce qu'avait le daim avec ses belles taches blanches et l'éventail de ses grandes cornes. La girafe portait haut une fine tête de couleur beige. Le lion et le rhinocéros étaient de même taille, et la crinière frisée de l'un était aussi parfaitement imitée que les plis épais de l'autre. J'étais donc là, aussi heureux qu'Adam au milieu de l'Éden, avant que sa désobéissance l'eût fait entrer en guerre avec la création, lorsque maman rentra. Il était assez tard. Le soir tombait. Elle était mal coiffée, elle, si soigneuse. Son chapeau, posé de travers sur ses jolis cheveux mousseux, avait l'air d'avoir été mêlé à une tempête, et ses paupières étaient rouges, comme si elle venait de pleurer. Je courus à elle, en sautant, les bras ouverts. Mais elle m'accueillit très mal. « Toi, » dit-elle avec une colère contenue qui semblait n'attendre que le plus futile prétexte pour faire explosion, « tu vas commencer par me laisser tranquille. » C'était une attitude si peu naturelle chez elle et si inattendue que je la considérais avec stupéfaction et que je m'en allais, tout déconfit, sans rien oser dire, paralysée par la surprise. Et voici maman qui jette son manchon sur le canapé, s'enfonce rageusement dans un fauteuil et, croisant les jambes, balance un de ses pieds avec une fièvre, avec une nervosité que je ne m'explique pas. L'injustice n'indigne les enfants que lorsqu'elle le vient de ceux qu'ils n'aiment pas. Sinon, ils en souffrent, mais sans rancune. Je me rapprochais de ma mère. J'essayais, avec mes pauvres lumières, d'écarter ces ombres accumulées. « Mais qu'est-ce que je t'ai fait, maman ?» Elle haussa les épaules et me déclara sur un ton de mépris. « Oh, rien, rien de particulier. Qu'est-ce que tu veux m'avoir fait ?» Et comme sans doute elle comprit alors, confusément, mon trouble et mon désarroi, elle ajouta « Va, je sens bien que tu ne m'aimes pas. » « Non, » assura-t-elle avec un redoublement d'énergie devant mes protestations timides et gênées. « Tu ne m'aimes pas, toi non plus. Personne ne m'aime. Tous les hommes sont égoïstes, lâches, menteurs, méchants. Toi aussi tu n'aimeras personne, tu mentiras, tu seras égoïste, lâche, fourbe, cruel, tu diras des choses que tu ne penseras pas. Ah, si j'avais une fille, elle me donnerait un peu de consolation, elle. À quoi bon avoir une fille? Pour qu'elle souffre, qu'elle soit bernée, méprisée elle aussi, que personne ne l'aime. Devant d'aussi noirs tableaux, je ne pus contraindre ma douleur et je me mis tout bonnement à sangloter. En voyant ma désolation, maman parut se rendre compte de la démence de sa conduite. Elle changea soudain de physionomie, elle me regarda avec tristesse, puis d'un mouvement furieux, me serrant contre elle, contre son pauvre cœur qui battait. « Mon pauvre Léon, qu'est-ce que je vais te raconter là? Où ai-je la tête, grand Dieu? Est-ce ta faute si tu es un homme, si tu dois faire un jour tant souffrir de gens? Embrasse-moi, Léon, je t'aime bien, aime-moi bien aussi, ne me fais jamais de peine. J'ai tellement besoin qu'on m'aime, vois-tu, je souffre tellement de ne pas être aimée. Tu comprendras cela peut-être un jour, mais je t'ai bousculé tantôt, pardonne-moi. N'y fais pas attention, ce n'était rien, mon petit. Maintenant c'est fini, nous allons jouer ensemble, comme quand tu étais tout à fait gosse. Nous resterons tout le temps ensemble, je ne veux plus voir que toi, je ne sortirai qu'avec toi. » Mais bien souvent encore, maman devait sortir seule.